Bien, bonjour. Avec le chapitre que nous abordons aujourd'hui, nous changeons d'atmosphère. Je parle bien sûr du point de vue du lecteur européen, celui que l'on a habitué depuis le XIXe siècle à lire la Bible comme de la littérature, pour reprendre par exemple l'idée de James Frazer, qu'il réalisa dans une anthologie de passages de la Bible choisis pour leur beauté littéraire. Et non du point de vue des lettrés, japonais médiévaux. Mais il suffit de considérer l'iconographie du Sutra du Lotus pour se rendre compte que ce chapitre, que nous abordons aujourd'hui, a donné lieu à une richesse d'images qui ne le cède pas aux autres épisodes célèbres. Il est vrai que ce chapitre 5, intitulé « La parabole des simples », ne se prête guère à un résumé narratif. Il a pourtant en commun avec les deux chapitres qui l'ont précédé, « La parabole » et « Croire et comprendre », de se dérouler autour d'une parabole. Disons plutôt ici « allégorie », car nous aurions du mal dans nos langues à garder le même mot pour ces trois chapitres, bien que l'on parle pareillement de « hiyu », comparaison, à leur sujet en sino-japonais. Les simples, vous l'auriez peut-être compris, c'est ce sens un peu oublié à présent de « plante médicinale », n'est-ce pas, qui est bien attesté, qui se trouve encore dans le Petit Robert. Et c'est, je préfère revivifier ce terme plutôt que d'utiliser le terme de plante médicinale. Pour une raison qui est accessoirement philologique aussi, il faut dire que le terme sanskrit, le titre sanskrit de ce chapitre, Oshadi, fait aussi difficulté, n'est-ce pas ? Si vous regardez dans n'importe quel dictionnaire sanskrit classique, c'est bien le sens de plante médicinale qui est attesté en premier. Et non pas herbe en général, herbe ou plante. Or, ici, c'est bien, comme vous le verrez, enfin, nous n'aurons pas le temps d'entrer dans les détails, mais ce ne sont pas les plantes médicinales en tant que telles, mais ce sont les végétaux, le monde végétal qui est compris sous ce terme. Il y a encore une fois un petit mystère philologique, je ne sais pas. Le sens d'herbe en général est donné dans certains dictionnaires sanskrits, mais de sanskrit bouddhique seulement, Edgerton en particulier. Je vous ferai remarquer que Dharmaraksha, le premier traducteur du Sutra du Lotus en 286, avait déjà traduit ce chapitre par plante médicinale, yakuso en japonais. Alors cette comparaison ou allégorie est ici très simple, c'est le cas de le dire. Shakyamuni a cette fois comme interlocuteur principal son disciple Mahakashyapa, le premier par l'ascèse, qui figurait déjà parmi les quatre auditeurs du chapitre précédent. Et à qui avait été laissé le soin de développer en stance la parabole du fils pauvre. Shakyamuni le félicite de cet exposé et mène un peu plus loin la conclusion du chapitre qui a précédé. Je cite. L'ainsi venu est roi des enseignements. Rien de ce qu'il prêche n'est vain. L'ensemble des enseignements, c'est par les méthodes de sa sagesse qu'il les expose. Les lois qu'il prêche, toutes tant qu'elles sont, font atteindre à la terre de l'omniscience. Il est d'une lucidité consommée pour ce qui est des enseignements. Et montre aux êtres l'ensemble des sagesses. Alors, comme vous le voyez, revient ici plusieurs fois le mot enseignement, méthode, loi. C'est en réalité le même mot chinois, sino-japonais qui est derrière, celui de ho, n'est-ce pas ? Les dharmas. Et vous vous rendez bien compte qu'ici, dans ce passage précis, c'est bien le sens de méthode, d'enseignement, de doctrine, de prédication qui est derrière le mot ho. Et si vous vous rappelez, au chapitre 2, le passage principal du chapitre 2, qui était les dix incités portaient justement sur cette nature des ho, n'est-ce pas, des dharmas, et que l'on a toujours traduit, que l'on a toujours interprété dans la tradition poétique japonaise par les phénomènes existants. Et vous voyez bien que c'est un choix de traduction, bien sûr, orienté par la doctrine Tendai qui s'est développée après, mais si l'on considère le contexte même du Sutra du Lotus, et ici c'est bien apparent, ce n'est pas le mot de phénomène, de chose, n'est-ce pas, qu'on remplace, souvent on traduit Shoho du chapitre 2 du Sutra du Lotus par Monogoto, les choses, les existants. Ici vous voyez bien que ce sont les méthodes d'enseignement. Le Bouddha ne prêche pas sur l'ontologie, mais sur sa propre prédication, ses méthodes pour faire parvenir à la vraie science qui est ici appelée omniscience. C'est une digression, mais c'est très important. Il faut toujours avoir cette idée en tête lorsque l'on compare la version chinoise du Sutra du Lotus à ses implications japonaises poétiques. Et à présent, c'est au Bouddha de présenter une comparaison, Hiyu, pour illustrer ce qu'il vient de dire. Imagine, je traduis ici Tatoeba, n'est-ce pas, par exemple. Imagine, par exemple, les herbes et les arbres, les forêts et les simples, qui poussent de par les monts et les fleuves, les vallées et les sols de l'univers. Dans leur diversité et leur variété, chacun est différent par son nom et sa forme. Une dense nuée va s'étendant de plus en plus largement, jusqu'à couvrir l'ensemble de l'univers. En un même moment, elle se répand en une pluie égale, dont l'humidité fertilise universellement herbes et arbres, forêts et simples. Quelle que soit sa taille, chaque arbre, chaque herbe reçoit la pluie. Je cite encore le Bouddha. Avec la pluie d'un seul et même nuage, ils obtiendront, conformément à leur nature séminale, de croître, de fleurir et de porter des fruits. Bien que nés d'un même sol, fertilisés d'une même pluie, herbes et arbres sont tous distincts les uns des autres. La morale de cette comparaison est tout à fait transparente. Le même enseignement du Bouddha est reçu de façon différente selon les facultés des êtres. On pourra peut-être trouver ici presque une contradiction avec ce que le Bouddha avait dit, notamment au chapitre 3, sur l'adaptation de sa prédication aux facultés. Il avait prêché les trois véhicules, au lieu du véhicule unique qui était la seule vérité, justement en tenant compte des capacités différentes de ceux qui recevraient son enseignement. Cette fois, le Bouddha pose une doctrine unique qui se dépose différemment sur les êtres parce que ceux-ci sont différents à l'origine. Il n'est pas question d'une adaptation doctrinale de sa part. Nous sommes assez proches de l'idée de l'unique son brahmique, n'est-ce pas, le bon-on, en quoi consiste fondamentalement le dharma, par-delà la diversité des paroles de tous les bouddhas de l'univers et des trois temps. On parle aussi de son unique. Nous avons d'ailleurs une expression pratiquement synonyme dans ce même chapitre. En un son sublime et unique, myo ici, j'en expose et développe le sens. Ce terme de son unique n'apparaît qu'une seule fois dans tout le sutra, mais il est constamment repris dans ce chapitre-ci, par l'expression « saveur unique » Ichimi, Shitotsu no Aji, mieux adaptée à la pluie. Et pourtant, toujours dans ce même chapitre placé sous le signe de l'unicité, le Bouddha redit à Kashyapa sa méthode décrite au chapitre précédent. « La loi prêchée par l'éveillé est comparable à un grand nuage. À l'aide de sa pluie de saveur unique, elle fertilise les fleurs humaines et chacun obtient de réaliser son fruit. » Et aussitôt après, Kashyapa, il faut le savoir, grâce aux relations et à la variété des paraboles, révéler et montrer la voie d'éveillé, tels sont mes expédients salvifiques. Il reprend donc ici les notions de relations, de paraboles, d'expédients salvifiques qui impliquent une diversité d'enseignements. Et donc, pour prolonger l'allégorie, cela obligerait à penser la pluie comme ayant différentes saveurs. On entrevoit peut-être une façon de sortir de cette contradiction. Les expédients salvifiques étant adaptés aux êtres, il faut les considérer comme partie intégrante de ces derniers, un peu comme les feuilles et les branches des arbres et des plantes. Ils sont le résultat de leur disposition. Mais ceci n'est pas dans les commentaires, du moins à ma connaissance, et je ne livre cette explication qu'à titre provisoire. Le chapitre s'achève sur une brève proclamation, qui ne doit plus étonner les auditeurs, mais constitue une avancée dans la révélation. Maintenant, à votre intention, j'expose une chose éminemment réelle. Jitsu. La foule des auditeurs n'est aucunement passée en disparition, c'est-à-dire en nirvana. Ce que vous pratiquez est la voie des êtres d'éveil. En la cultivant graduellement, vous obtiendrez tous, tant que vous êtes, de devenir éveillés. Donc, nous retombons dans l'idée qui nous est maintenant familière. Ces auditeurs, ces shravakas, ces arhats, qui étaient considérés comme le summum du petit véhicule, n'étaient en réalité qu'une étape provisoire dans la vraie voie bouddhique qui est de devenir parfaitement Bouddha. L'imagerie végétale de ce chapitre a bien sûr inspiré les artistes, qui ont donné libre cours à leur amour de la nature pour représenter en sa variété la flore qui y est si minutieusement décrite. Mais on se doute bien que les poètes aussi y trouveront matière à écrire, puisque le monde végétal est l'une des principales sources de leur inspiration. Cependant, si vous avez la curiosité de lire ce chapitre du Sutra, vous y relèverez peut-être une singularité. En dépit du titre, la description de la végétation qui s'y trouve, pour détailler qu'elle soit dans les particularités physiques, reste étrangement générale. On ne trouve pratiquement pas mention de plantes spécifiques, si ce n'est dans la partie en vert, ces quatre espèces, qui sont très vagues aussi, céréales, riz, canne à sucre, vigne. Ce sont les seules mentions de végétaux que l'on trouve dans un chapitre entièrement consacré aux plantes. L'impression générale est donc celle d'une grande abstraction dans le sutra. Nous pourrions nous attendre à ce que les poètes japonais cherchent à remédier aux vagues de la description scripturaire en cueillant à loisir les plantes de leur paysage poétique. Mais ce n'est nullement le cas. Si nous considérons les 9 pièces que Jikkai, le compilateur du Yakuwa Wakashu, dont vous connaissez maintenant l'existence parce que j'y ai fait à plusieurs reprises allusion, un ouvrage qui date des environs de 1500, n'est-ce pas ? C'est donc si nous comparons les 9 pièces que Jikkai a choisies pour son anthologie, il n'y en a que 2 qui mentionnent des essences particulières, alors que les autres reprennent la description générique du monde végétal. Je reviendrai sur ces plantes tout à l'heure. Au contraire, on a l'impression que les auteurs cherchent le plus souvent à rester dans cette généralité, parfois pour des raisons évidentes. J'ai fait plusieurs fois allusion lors du séminaire au grand religieux du Tendai Genshin, Eshin Sozu, des environs de l'an 1000, et de sa propension à insuffler l'idée de l'éveil de l'inanimé, et tout spécialement des plantes, dans ses poèmes sur le sutra du lotus. Nous le voyons justement au mieux de sa forme lorsqu'il résume en ces vers le chapitre tout entier, que je vous cite d'abord en japonais, Onajikoto, et ça commence bien, Onajikoto, Hitoaji no ame no furi nureba, kusaki mo hito mo hotoke tozo naru. Bon, je n'insiste pas sur l'absence de valeur poétique de ce poème, mais c'est le sens qui est intéressant ici. Il en est tout de même. Une fois tombée, la pluie d'une seule saveur, une fois tombée, la pluie d'une seule saveur, plantes et humains mûrissent en Bouddha. Plantes et humains mûrissent en Bouddha. Hotoke tozo naru. Message on ne peut plus transparent, qui a contribué, comme beaucoup d'autres poèmes de même contenu, à imposer l'idée selon laquelle le Sutra du Lotus prônait l'éveil du monde végétal et minéral, ce qui n'est bien sûr pas le cas dans le Sutra du Lotus, je vous l'ai déjà dit, je n'y reviens pas. Nous avons en revanche, bien moins nombreux, quelques poèmes mentionnant des plantes spécifiques. Je n'en citerai qu'un seul, anonyme, mais consigné dans le Shinshu Ishu, anthologie impériale, donc, achevée en 1364. Et dont les auteurs sont donc contemporains de Son-en. Il est d'autant plus digne d'attention, ce poème, que la notice qui le précède prévient qu'il a été révélé en songe par le Bodhisattva Fugen, à quelqu'un qui passait une nuit de veille au sanctuaire de Sumiyoshi à Osaka. Donc ce n'est pas rien, c'est un poème qui est dicté directement par un Bodhisattva. C'est un phénomène aussi fréquent au Japon que dans les autres pays, ce phénomène de l'incubation, en quelque sorte. On va passer la nuit dans un sanctuaire ou un temple pour avoir une révélation spéciale de la divinité associée à ce temple ou à ce sanctuaire. On en a plusieurs exemples dans la littérature japonaise. Alors, ce n'est pas une œuvre inoubliable, toute référence gardée pour Samantha Badra, n'est-ce pas, Fugen Bosatsu, mais elle a le mérite de nommer 2 plantes. Je vous les donne en japonais d'abord. Morotomoni, Hitoaji no ame wa, Kakaredomo. Hitoaji no ame wa, la même expression toujours. Matsuwa midori ni, Fujiwa murasaki. Certes, sur tous, une pluie de même saveur est dispensée, mais elle donne au pin le vert, aux glycines la pourpre. Nous retrouverons justement la glycine dans l'un des poèmes de Son-en d'aujourd'hui. Vous verrez pourquoi je traduis Murasaki par pourpre tout à l'heure, je vous l'expliquerai brièvement. Ça peut aller du violet au mauve, à la pourpre d'ailleurs. Il semble en tout cas que la leçon qui a retenu la plupart des poètes de ce chapitre, c'est le contraste entre le un et le multiple, l'unité du dharma et la diversité du monde sur lequel il se déploie. Nous voyons ce contraste s'exprimer dans le premier poème de Son-en, fait sur la citation. Ils obtiendront, conformément à leur nature séminale, c'est-à-dire à la nature de leur espèce, de naître et de croître. Et le poème de Son-en se présente ainsi. Harusame no hitotsu megumi wo uke nagara, nobe no midori ya shitane naruran. Harusame no hitotsu megumi wo uke nagara, nobe no midori ya shitane naruran. en recevant la grâce unique d'une pluie de printemps. La verdure de la lande en mille germes mûrira. Le mot Shitotsu, unique, c'est pas Shitotsu no Megumi, la grâce unique, du second vers, y fait contraste avec le Chitane, les mille graines du dernier. Shitotsu d'un côté, sen de l'autre. Ichi d'un côté, sen de l'autre, un, mille. Le poète fait appel à un jeu de mots pour transposer à la fois la lettre de la citation scripturaire et l'esprit de la comparaison. Il faut savoir en effet que dans le composé Chitani, le second terme, signifiant ici graine, germe, le grain, n'est-ce pas, tané, s'écrit avec le caractère chinois sh, qui apparaît dans la citation, dans le composé nature séminale, shu, sho. Donc, tané no seikaku. N'insistons pas sur l'original sanskrit gotra, que rend ce terme chinois. En cette dernière langue, il se décompose en un premier terme, germe, signifiant l'élément fondamental de la conscience. En sanskrit, donc, il n'y a qu'un seul mot, n'est-ce pas ? Gotra. Gotra qui signifie, à l'origine, vous reconnaissez peut-être le radical go, hein, que nous avons encore en anglais cow, n'est-ce pas ? La vache, le bovin. Gotra signifie, à l'origine, semble-t-il, l'enclos des bovins. Et puis, la lignée, n'est-ce pas ? La lignée d'une famille. Donc, ce mot sanskrit est traduit en chinois par un composé, un binôme, ce qui va évidemment donner une nouvelle vie, une vie toute, complètement différente au composé chinois. Donc, en chinois, donc, se décompose en un premier vers, terme, germe, qui signifie l'élément fondamental dans la conscience, de la conscience. C'est un terme qui joue un très grand rôle dans la psychologie, dans la noétique bouddhique. Et un second terme qui est nature, nature individuelle ici. C'est souvent interprété par les commentateurs, sho est interprété par sho-bun, c'est-à-dire la division de la nature dans chaque individu. Nous pouvons le traduire en tout cas ici par espèce, ce shusho. Tani rappelle donc à la fois shusho et shurui, espèce, terme qui se trouve une fois tout au début de la comparaison. Mais on ne saurait ignorer que mille germes, signifiant toutes les espèces, c'est pas mille germes, senshu en sino-japonais, dans ce mot, donc, il y a une claire allusion à un terme qui apparaît un peu après la suscription scripturaire, celui de issai shuchi, la science portant sur toutes les espèces. Issai, n'est-ce pas, tout, shu, tané, les espèces, et chi, la science, la sapience, qui est l'une des trois sciences ou savoirs exceptionnels que possèdent les trois véhicules et les Bouddhas. Alors, les trois véhicules et les Bouddhas sont munis de trois façons de connaître non seulement le monde, mais surtout les êtres qui y sont et la voie qui mène hors de ces mondes. Les trois véhicules en possèdent une, les bodhisattvas une autre, et la troisième, c'est la science de toutes les espèces, qui est celle du Bouddha. Le Bouddha explique qu'il ne peut prêcher immédiatement aux êtres cette science de toutes les espèces, car ils ignorent quelle est leur nature. Chitane, équivalent à issai shuchi, ou en tout cas issai shu, n'est-ce pas, toutes les espèces, chitane, donc mille équivalents à Issai, tout c'est bien, ça s'en compte très souvent. Donc, l'annonce de leur venue à maturité dans le poème est promesse de la prédication de cette science de toutes les espèces aux êtres en général. Cette science est refusée à l'origine aux êtres des deux premiers véhicules. On comprend dès lors qu'il convient d'accorder toute l'attention qu'il mérite au mot nobe, la lande, qui apparaît dans le poème que je viens de vous lire. Qui, vous vous en souvenez, signifie régulièrement l'état d'auditeur dans la poésie à thème bouddhique. La verdure de la lande reprend donc le monde végétal de la comparaison des plantes médicinales, en y ajoutant la précision qu'il s'agit aussi des êtres du petit véhicule, Nobe no Midori, ceux à qui la révélation du Sutra du Lotus permettra d'accéder à un niveau supérieur de sapiens, bénéficiant finalement de l'unité de saveur de la loi. Le verbe final, naru, signifie à la fois mûrir et réaliser l'état de Bouddha. Là aussi, ce sont des emplois bien connus. Nous l'avons déjà vu dans le poème de Genshin que j'ai mentionné tout à l'heure. Plantes et humains mûrissent en Bouddha. Nous avons donc ici la même annonciation de la future obtention de la bouddhéité à la fois par l'inanimé végétal, conséquence logique, si l'on prend à la lettre l'allégorie du sutra, ainsi que l'a fait Genshin, et par les êtres du petit véhicule. Vous voyez donc comment Sohen transmet plusieurs doctrines à la fois. Il reprend l'idée de l'éveil de l'inanimé, et puis il résume l'idée de ce passage du sutra sur les êtres du petit véhicule en général qui seront menés à l'éveil. Donc à la fois plante, tout, parce que ça reste dans l'esprit de cette allégorie, et être les auditeurs, n'est-ce pas ? Le second poème de Sohen est placé sous la citation « Dans la sagesse de l'éveillé, c'est comme une goutte dans l'océan ». Il est important de donner le contexte de ce passage. Je le reprends. L'éveillé utilise cette parabole, c'est-à-dire celle de la pluie sur les plantes, pour révéler et montrer à l'aide d'expédients et par une variété de locutions, exposer la loi unique. On reconnaît ici une variante d'un développement souvent répété dans le Sutra du Lotus, où sont énumérés les artifices rhétoriques grâce auxquels le Bouddha peut exposer sa loi. Cette allégorie de la pluie n'est qu'une des innombrables tactiques salvatrices de l'éveillé. C'est en ce sens que, gardant une partie de l'image, le Sutra précise qu'il ne s'agit que d'une goutte d'eau dans l'océan des expédients de Bouddha. On se souvient peut-être que déjà, dans le quatrième et dernier poème sur le chapitre de la parabole, Sohen avait choisi une citation qui était proche du contexte de celle-ci. La citation étant « De paraboles et de locutions, il prêche la loi sans rencontrer d'obstacles. » Et il en profitait pour proclamer une sorte d'art poétique en miniature. « Et alors faudra-t-il, je le rappelle, n'est-ce pas ce poème que je vous ai déjà cité deux fois, « Et alors faudra-t-il les appeler nuages, les cerisiers des montagnes, quand on les narre à qui ne les a point vus encore ?» Le poème qu'il nous donne ici peut également se lire comme une élaboration sur la métaphore et son rôle tant poétique que religieux. Voici en effet ce qu'il dit. Alors c'est un poème assez complexe. Je le lis d'abord en japonais. Hito edao, taoreru fuji ni, tago no ura no chisato no nami no iro o miru kana. Hito edao, taoreru fuji ni, tago no ura no chisato no nami no iro o miru kana. Une première traduction donnerait à peu près ceci. En un seul rameau de glycine cueillie, je revois l'apparence des vagues de 1000 lieues, lieues comme les bottes de 7 lieues, bien sûr, en la baie de Tago. La présence du toponyme poétique Tago no Ura, lieu la plage ou la baie de Tago, lieu réputé pour sa vue sur le mont Fuji, le mont Fuji, n'est-ce pas cette fois, nous indique que d'une part, ce poème doit se révérer à d'autres poèmes, et que d'autre part, à cause de l'utilisation de ce toponyme poétique qui renvoie toujours à une tradition, et que d'autre part, il faut donner un sens à l'évident jeu de mots qui est mis en œuvre ici par Sohen. Le jeu de mots sur Fuji, la glycine, et Fuji, le mont Fuji. La plage de Tago fait immédiatement penser à un poème qui figure dans la fameuse anthologie des 100 poèmes, par un poète à chaque fois, n'est-ce pas, le Shiakunin Ishu, et dont l'origine est dans le Shinko Kinshu, donc le Shinko Kinshu de la fin du XIIe siècle, contemporain de Jien, le grand maître ancien de Sohen. Ce poème figure déjà en fait dans le Manyoshu, où il est attribué à Yamabe no Akahito, mais je vous en donne ici la version la plus connue, donc celle du Shinko Kinshu. Je la donne d'abord en japonais. Tago no ura ni uchi idete mireba shirotae no fuji no takane ni yuki wa furetsutsu. Tago no ura ni uchi idete mireba shirotae no fuji no takane ni yuki wa furetsutsu. Qui donne à peu près ceci en français. À la baie de Tago parvenu, comme je regardais en sa blancheur sur le haut pic du Fuji, la neige devait tomber. Comme vous le voyez, c'est bien pour sa vue du Fuji que la plage ou la baie de Tago apparaît dans la poésie. Il n'est pas besoin de beaucoup de japonais pour remarquer que le nom du mont Fuji, je viens de le dire, est homophone de la glycine, Fuji, ce qui représente un premier décalage poétique opéré par Sohen sur ce toponyme, le faisant passer du mont, de la montagne, à la fleur. Puisque Tago no Ura fait d'abord penser au mont Fuji, mais là, il prend le lecteur à contre-pied en mettant Tago no Ura, mais les Fuji au sens de glycine. Mais il ne va pas s'arrêter là. Un poème plus ancien, consigné dans le Kokinshu, nous apporte un autre mot employé par Sohen, les vagues, Nami. Voici ce poème, en japonais d'abord. Suruganaru toga no uranami, tatanu hi wa aredomo, kimi o koinu hi wa nashi. Suruganaru toga no uranami, tatanu hi wa aredomo, kimi o koinu hi, koinu hi wa nashi. C'est un poème un peu simple pour le japonais, mais c'est, il dit bien ce qu'il veut dire. En Suruga, sur la plage de Tago, il se peut qu'il y ait des jours sans vagues, mais qu'à vous je ne pense, de jours il n'en est point. Il est dès lors possible, loisible à son yen, en se fondant sur ses précédents poétiques, où le même toponyme de Tago no Ura est associé à la fois au Fuji, homologue de glycine donc, et à vague, nami, d'associer les deux pour évoquer un autre terme poétique, que vous connaissez peut-être, Fujinami, Fujinami, littéralement les vagues de glycine, qui décrit d'abord concrètement les fleurs ondulant sur leurs espaliers, puisque les glycines sont souvent mises sur des, ou en pergola, en quelque sorte, pour déployer toute leur beauté. Et c'est vrai que ça fait, sous le vent, cela ondule, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une métaphore bien connue pour les mouvements de la pensée, surtout la pensée émue par le souvenir d'une personne aimée. Nous avons des exemples de cette expression dans le Manyoshu, dès le Manyoshu, et n'est pas besoin d'y insister. En même temps, le poème de Soen, tout comme le précédent, s'articule sur le contraste entre le un et le multiple, avec cette différence qu'il est ici plus clairement marqué, puisque c'est le premier vers de la moitié supérieure qui commence par un, et le premier vers de la moitié inférieure par mille. Le poème nous dit donc, dans ce qui serait tout d'abord une lecture directe pour un japonais, que dans un simple rameau de glycine cueilli au hasard d'une promenade, il lui semble voir, par le rapprochement phonétique avec le mont Fuji, le paysage toujours renouvelé des vagues immenses, Chisato, de la baie de Tago. Des vagues immenses, donc s'étendant sur mille lieues, n'est-ce pas, Chisato. Cela ferait déjà un poème intéressant, puisque donc, en voyant les glycines, il pense au Fuji. Mais ce ne serait pas encore un poème bouddhique, et encore moins un poème consacré à cette citation précise du Sutra du Lotus. Bien évidemment, le lien avec la citation scripturaire est assuré par le mot « vague », qui rappelle le mot « océan » du Sutra. Le mot « un » de « un seul rameau », « shitoeda no fuji », résonne avec « une goutte », « ichaku », « shitotsu no shizuku », n'est-ce pas, dans le Sutra. Le rameau ondulant comme une vague de fleurs de glycine n'est qu'une vague parmi d'autres dans la baie de Tago, de même que la variété des locutions se ramène à une loi unique. Les vagues de glycine, je l'ai dit, évoquent la pensée. C'est donc ici un rappel de la sagesse de l'éveillé du texte scripturaire. Et l'on voit ainsi, on voit souvent dans les poèmes bouddhiques « omou », n'est-ce pas, « omoi », et donc ici les « nami », qui évoquent tout de suite le verbe « omou », « penser », arriver lorsqu'il y a un mot sur « sagesse » dans le texte du sutra. Et l'on voit ainsi comment Soen manie le paradoxe. C'est le « un » fragmentaire du rameau cueilli qui renvoie au « un » total exprimé par la multiplicité des vagues de mille lieues. Mais l'enseignement est clair. La saveur unique de la loi qui est évoquée dans l'allégorie se divise en une infinité d'enseignements salvifiques, mais qui se ramènent tous en définitive à une parfaite, une océanique unité. Nous voyons ainsi le poète faire un remarquable et paradoxal aller-retour du un au multiple et du multiple à l'un. Et d'ailleurs, à ce sujet, je pense que... On va peut-être même penser que c'est exagéré, mais je vous dis des choses qui apparaissent dans les poèmes, n'est-ce pas? Il y a un autre jeu de mots très fréquent sur Fuji. D'ailleurs, ceux qui connaissent un peu les estampes japonaises ou le savent que le mont Fuji est souvent écrit avec plusieurs caractères, mais souvent écrit avec, moins souvent que les caractères habituels, n'est-ce pas, le lettré riche et tout cela, avec les deux caractères Fu et ni, fu ni, fuji, qui veut dire non-duel, non-deux. Il y en a, sous-entendu, il n'y a pas deux montagnes comme lui, il n'y a pas deux montagnes comme le mont Fuji. Donc c'est une interprétation par les caractères chinois de l'unicité du mont Fuji. Mais il faut avoir en tête que dans les poèmes bouddhiques, ce jeu de mots de non-dualité intervient fréquemment pour exprimer le « un », n'est-ce pas ? Le mont Fuji est parfois synonyme ou homophone même de la non-dualité. Et il faut certainement aussi avoir en tête cette lecture. Bon, certains japonisants me diront, mais normalement, dans le bouddhisme, on le lit « funi », n'est-ce pas, et pas Fuji. Fuji étant une lecture poétique ou littéraire, mais pas bouddhique. Mais évidemment, c'est l'une des clés de cette utilisation des homophoniques, de sauter d'une dimension à l'autre. Mais ce faisant, en plus, il démontre par la manifestation concrète qu'est le poème lui-même, comment ces paraboles et locutions opèrent. Car c'est en prenant délibérément le toponyme de Fuji dans un sens autre, à savoir glycine, qu'il peut réaliser une image poétique qui débouche sur une vision contemplative. Il donne l'exemple lui-même de cette première lecture littéraire, n'est-ce pas, que je vous ai présentée comme lecture littéraire, qui est de prendre dans la glycine pour le mont Fuji, est en réalité l'illustration même de ce qu'est l'allégorie, la comparaison, le hiyu, dans un texte bouddhique. Ce rappel concret de la méthode de Song Yen ne sera pas inutile pour aborder le troisième poème. Et si l'on veut bien accorder au poète que la disposition des pièces à l'intérieur de son recueil ne doit pas être traitée à la légère, nous pourrions nous dire que c'est même un avertissement au lecteur afin qu'il fasse attention à ce qui suit. Ce poème, en effet, est placé sous une citation scripturaire déjà très significative. La citation étant « Elle fertilise les fleurs humaines » et chacun obtient de réaliser son fruit. Le mot utilisé ici pour fruit est « jitsu ». Alors qu'un peu plus haut, à propos du fruit de la voie, nous avions le mot « ka », « kudamono », qui est plus fréquent comme terme religieux, « jitsu » étant plus approprié aux fruits concrets. Cela aura bien sûr son importance dans le poème de Song Yen, qui se présente ainsi. En japonais d'abord, « tokishi areba ». Haru no miyama no hana o mitsu, aki no konomi mo mata ya hirakan. Tokishi areba, haru no miyama no hana o mitsu, aki no konomi mo mata ya hirakan. Le moment venu, au printemps dans la montagne, j'ai vu la fleur, et les fruits de l'automne encore se révéleront. Placé sous le signe du temps, le premier mot, toki, tokishi areba, suivi de la mention du printemps d'abord, haru, et de l'automne ensuite, ce poème semble célébrer l'alternance des saisons et le passage des fleurs aux fruits. Et il est indéniable que c'est bien l'un de ces sens que l'on peut y lire. Deux mots relient directement le poème à la citation. La fleur, hana, lecture japonaise de la du mot de la citation que je traduis par fleurs humaines, j'y reviendrai dans un instant, ninge, n'est-ce pas, ge, donc ka, c'est-à-dire hana, et fruit, konomi, jitsu. Nous pouvons dire qu'il est un mot de la... Oui, je reviendrai là-dessus, mais konomi est la lecture d'abord de ka, kudamono, n'est-ce pas, et jitsu, c'est le plus souvent minori. Je le dis déjà pour que vous soyez moins étonnés tout à l'heure. Nous pouvons dire qu'il est un mot de la citation qui brille par son absence dans le poème, celui que j'ai traduit par « humain » dans l'expression « ninge », les fleurs humaines, c'est-à-dire les fleurs qui sont les hommes dans l'allégorie. Déjà, l'allégorie elle-même expliquait son... Le sutra expliquait lui-même son allégorie en disant que les fleurs, donc les plantes, les fleurs qui étaient l'aboutissement de la plante étaient les hommes, les êtres humains. Comme il s'agit du mot principal du passage, il y aura lieu de se demander ce qu'en a fait Song Yen. Et pour ce faire, il faut regarder de plus près le mot « konomi ». Une première lecture, qui prendrait ce terme en son sens immédiat, mène à comprendre que le poète, puisque c'en était la saison, a vu les fleurs s'épanouir au profond des montagnes au printemps. « Miyama » veut dire, ça s'écrit avec « fukakiyama », n'est-ce pas ? Les montagnes profondes. Ce n'est pas le terme honorifique, l'honorable montagne, c'est un terme poétique très fréquent pour exprimer le profond des montagnes. Simplement, si vous me permettez encore une digression, ça peut être aussi le terme honorifique. Et évidemment, lorsque ça veut dire l'auguste montagne, la sainte montagne, vous comprenez tous qu'il s'agit du pic du vautour, le Ryōjūsen, n'est-ce pas, le mont sacré des aigles, où est prêché le sutra du lotus. Donc déjà, il y a ici une ambiguïté, mais sur laquelle je n'insiste pas, je la fais remarquer à ceux que ça intéresse. Donc, le poète voit les fleurs s'épanouir au profond des montagnes au printemps, et ces fleurs sont promesses de fruits qui se révéleront en automne. Rien de très étonnant jusqu'à maintenant. Si l'on examine les autres sens possibles et les emplois de Konomi dans d'autres poèmes à thème bouddhique, nous voyons que l'autre sens le plus évident et bien exploité par les poèmes, par les poètes, vous l'avez peut-être deviné, c'est Konomi, Konomi, à savoir ce corps, ce corps. Ce corps tel que nous l'avons reçu dans cette vie. Nous en avons un bon exemple dans, dans ce poème de Fujiwara no Yoshitsune, à peu près contemporain de Jien, donc de la fin du XIIe siècle, portant sur l'incité de fruits, Nyoseka. Je ne reviens pas sur les termes d'incité et tout cela, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Voici le poème de Yoshitsune. Akifukaku, nari hate ni keru miyama kana, hanamishi eda ni konomi irozuku. Au profond de l'automne, voilà bien transformées les montagnes boisées. Aux branches dont nous vîmes les fruits prennent leur couleur. On voit que beaucoup d'éléments rapprochent ce poème de celui de Sōnyen. Les montagnes profondes, miyama, fleurs, hana, voir, miru. Ici c'est michi, tout à l'heure c'était la forme mitsu, qui peut étonner certains japonisants, mais elle est bien attestée. Automne, aki, fruits, konomi. Les poèmes sur l'incité de fruits évoquent souvent le corps, c'est-à-dire le produit du karma reçu à la naissance, avec ses potentialités, tandis que ceux sur l'incité de rétribution, mukui, nyoseho, décrivent le plus souvent la réalité concrète de ce fruit, à savoir les misères de la vie. Il faut donc comprendre aussi le dernier vers comme « notre corps prendra forme », konomi irozuku, notre corps va se former, littéralement, va se doter de couleurs, c'est-à-dire va se doter de la matière visible, de la matière apparente. Donc le corps va se former. C'est bien conformément à cette idée de nyoseka, n'est-ce pas, l'incité de fruits, le karma se concrétise dans ce corps. Nous trouvons la même idée chez Jien, dans un poème portant aussi sur l'incité de fruits. Je cite ce poème de Jien, c'est le numéro 156 dans la centurie du Lotus. Adani saku, hanato wa tare mo omounayo. Adani saku hanato wa tare mo omounayo. Tsui ni konomi wo musubu tozo shide. Tsui ni konomi wo musubu tozo shide. Je lis chaque moitié de vers deux fois pour que vous voyez bien la pensée. N'est-ce pas ? Que nul n'aille penser qu'en vain la fleur s'épanouisse, car à la fin, sachez-le, elle portera son fruit. Ici encore, en lisant konomi, le fruit, konomi, ce corps, le poète évoque les bonnes renaissances assurées à ceux qui entendront et garderont le message du lotus. On remarquera dans le poème de Jien la mise en valeur d'un troisième sens de konomi, par le contraste qu'il fait avec le premier mot du poème en japonais, ada, vin. Car mi, ne l'oublions pas, s'écrit avec le caractère jitsu, celui qui se trouve justement dans la souscription du poème que nous avons ici. Et ce caractère signifie réalité en contexte bouddhique. Donc, opposé à vin, konomi signifie à la fois fruit, ce corps et réalité, puisque konomi est non seulement synonyme de minori, mais est parfois une lecture du caractère jitsu, n'est-ce pas, du même caractère jitsu qui veut dire réalité, fruit, que l'on lit parfois dans le sens de fruit, minori, et beaucoup plus rarement, mais c'est attesté dans les dictionnaires anciens, konomi aussi. Donc, il entraîne toutes les mêmes associations d'idées que jitsu, que minori, n'est-ce pas ? Et donc, konomi, au sens de fruit et de réel, s'oppose au premier mot du poème, qui est ada, n'est-ce pas ? On observera dans le même sens les différents jeux de mots qui s'enchaînent dans le poème de Sōnyen entre mitsu, j'ai vu, et remplir. Mitsu veut dire à la fois j'ai vu, mais ça peut être la forme du verbe, la forme neutre, n'est-ce pas, du verbe remplir. Aki, c'est l'automne, mais aki veut dire aussi le vide. C'est aussi un des jeunes mots qu'on trouve souvent dans le contexte bouddhique. C'est-à-dire aussi le vide et aussi la satiété, n'est-ce pas, le sens de dégoût de la vie. Et konomi, le premier et le troisième. Donc, mitsu, aki et konomi, le premier et le troisième, donc j'ai vu et la réalité du fruit, annulant le second terme qui est aki, l'automne, et qui est au milieu. Nous pouvons même considérer que, lu sous cet angle, aki et konomi provoquent un effet surprenant d'alliance de mots qui n'est pas sans rappeler Hana no Minori. C'est littéralement le fruit de la fleur qui suggère tous les deux la réalité du phénoménal une fois arrivé à la révélation du Sutra du Lotus. C'est le fruit de l'automne, c'est pas Aki no Konomi, c'est comme Hana no Minori, le fruit de la fleur qui est Minori, qui veut dire le fruit et la réalité, la fleur qui veut dire non seulement la fleur du lotus, mais la fleur poétique qui est l'éphémère par excellence, n'est-ce pas, le symbole du Mujo. Donc, il y a une sorte d'oxymore entre les deux, de contradiction dans les termes qui fait comprendre l'unicité de le caractère unique du Sutra du Lotus. Le dernier mot du poème, Hiraku, ajoute la touche finale qui met le poème dans la lumière du sutra, signifiant bien sûr s'ouvrir, s'épanouir, et écrit avec le caractère chinois kai. Ce verbe signifie aussi révéler, mais a dans le bouddhisme de tradition Tendai un usage scolastique qui se fonde sur le sutra du lotus même. On sait en effet que le chapitre des expédients salvifiques définit en quatre verbes l'action des bouddhas sur les êtres. Je cite, les bouddhas ouvrent, révèlent, font comprendre et font pénétrer le savoir et la vision de Bouddha. Ouvre, révèle, faire comprendre, faire pénétrer. Kai, ji, go, niu. Le savoir et la vision du Bouddha, Butchiken. Et dans ce chapitre même de la parabole des simples, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, les deux premiers verbes sont utilisés à propos de la parabole. L'éveillé utilise cette parabole pour révéler et montrer, kai, ji, à l'aide d'expédients, la voie unique. C'est donc bel et bien grâce à la révélation du sutra que s'accomplit en ce corps la réalité de la loi. Vous avez tous les sens réunis ici. Le quatrième et dernier poème porte sur le passage final du chapitre, passage que je vous ai cité tout à l'heure, dans lequel le Bouddha révèle aux grands arhats, aux méritants, n'est-ce pas, aux ogu, les dignes d'offrande en sino-japonais, aux auditeurs accomplis, qu'ils ne sont pas passés dans le nirvana, mais que ce qu'ils pratiquent en réalité est la voie des bodhisattvas. Soen ne retient qu'une partie de cette citation. Ce que vous pratiquez est la voie des êtres d'éveil. Et il fait à son propos sévère. Je l'entends à présent qu'au crépuscule des temps futurs, des printemps futurs, le cœur en son aspiration vers l'ouest veut aller. Malheureusement, je n'ai pas donné le texte japonais ici. Imazokiku, n'est-ce pas? Je vous le redis donc d'après mes souvenirs, vers par vers. Imazokiku, au crépuscule des printemps futurs. Kanuru haru no yuhi kage ni. Le cœur en son aspiration, Shitau Kokoro, vers l'ouest veut aller, Nishini Yukan. Alors, Kanuru Haru, n'est-ce pas, les printemps, ça vient du verbe Kanu qui veut dire futur ici, qui va venir. Et Shitau Kokoro, le cœur en son aspiration, vers l'ouest veut aller, Nishie Yukan. Donc, deux mots, le soleil couchant, Yuhi Kage, et l'ouest, Nishi, suggère sans ambiguïté que le poème concerne la foi en le Bouddha Amida, n'ayant fait pratiquer très peu le bouddhisme japonais, vous savez tout de suite que l'orientation vers l'ouest signifie l'orientation vers la terre pure d'Amida, tandis que le soleil couchant, Yuhi, rappelle bien sûr l'ouest et donc la venue du Bouddha Amida. Je vais y revenir dans un instant. Cela peut paraître surprenant à première vue, cette allusion au bouddhisme, à la foi, le Bouddha Amida, tant nous sommes habitués à concevoir une nette séparation entre les doctrines du Tendai et celles de la terre pure. C'est pourquoi il convient de rappeler que les deux tendances ont coexisté de longue date au sein du bouddhisme lotusien. En disant de longue date, je veux dire dès l'origine, car dans le Sutra du Lotus même, on trouve au chapitre 23 la conduite originelle de l'être d'éveil, roi des remèdes, un passage célèbre où le Bouddha fait l'éloge de ceux qui préserveront ce chapitre du lotus dans les termes suivants, le chapitre 23 du Sutra du Lotus. Je cite, « Si, dans les 500 dernières années après la disparition de l'ainsi venu, il est une femme, pour entendre ce texte canonique et pour pratiquer comme il l'est prêché. Sa vie prenant fin ici, elle s'en ira au monde bienheureux. Gokulaku. Là où demeure l'éveillé Amitabha, c'est-à-dire Amida, entouré d'une vaste multitude d'êtres d'éveil, pour renaître sur un trône précieux en une fleur de lotus. Elle ne sera plus tourmentée par la cupidité, elle ne sera plus tourmentée par la colère et la sottise, elle ne sera plus tourmentée par les souillures de l'orgueil et de la jalousie. Nous voyons donc que la foi en le Bouddha Amida est prônée au cœur même du Sutra du Lotus, par le Bouddha Shakyamuni lui-même, et qu'il ne saurait de ce point de vue exister d'incompatibilité entre les deux courants. Je rappellerai aussi que dès l'époque de Kamakura, l'école Tendai prônait que son fondateur japonais, Saicho, avait en réalité transmis au Japon non seulement le Tendai, mais aussi l'ésotérisme, le zen et la terre pure, tactique apologétique permettant d'englober les grands courants qui lui faisaient le plus de concurrence à l'époque. Cela nous explique que nous trouvons dès l'origine des poèmes japonais lotusiens, du moins autant que nous pouvons en connaître, une claire exaltation des croyances en la terre pure. Ceux qui suivent le séminaire se souviennent très certainement du poème de la princesse impériale Senshi Naishinno, vers l'an 1000, n'est-ce pas, qui proclamait « Bien que d'une seule couleur nos personnes soient imprégnées, pour la couleur des fleurs, les rameaux pointant à l'ouest ne sont-ils pas les plus splendides ?» Cette expression « Nishi ni saseya », ceux qui pointent vers l'ouest, ne peut s'entendre que dans un sens amidiste dans la poésie japonaise. Et chose surprenante, le poème a aussi pour souscription cette citation précise. Elle fertilise les fleurs, que nous avions tout à l'heure, elle fertilise les fleurs humaines et chacun obtient de réaliser son fruit. Ce qui implique que pour la Vestale, qui était Senshi, le fruit à réaliser était la renaissance en la terre pure du paradis de l'Ouest, non l'obtention de l'éveil parfait sans supérieur. Vous voyez, un léger décalage par rapport à ce qu'on pouvait attendre du contexte même du Sutra du Lotus. Elle le fait revenir à un contexte non pas anti-lotusien, mais qui se trouve ailleurs dans le Sutra du Lotus. Elle fait coïncider les deux passages dans la foi en Amida. Nous retrouvons chez Jien, de façon peut-être plus étonnante, les mêmes préoccupations amidistes, dont je vais vous donner deux exemples. Le premier provient de sa Centurie du Lotus. C'est un poème qu'il a composé sur un passage du chapitre 7, La ville fantasmagorique, Keijo-hon, dont je rappellerai seulement que le cœur en est la parabole du même nom, où le chef d'une caravane, afin de permettre aux voyageurs épuisés par la traversée du désert, fait apparaître, grâce à ses capacités magiques, une ville illusoire, où les malheureux voyageurs ont le sentiment de se rafraîchir et de se restaurer réellement. Et ils peuvent ainsi, frais et dispos, repartir vers leur véritable destination. Sous la citation « J'ai fait apparaître provisoirement un fantôme de ville », voici le poème de Jien cette fois. Murasaki no kumo o matsumi wa kino ni kyo saki kakaru fuji no idozo ureshiki. Murasaki no kumo o matsumi wa kino ni kyo saki kakaru fuji no idozo ureshiki. Provisoire, certes. Oui, provisoire, certes, nous l'entendons. Provisoire, certes, et le gîte, nous l'entendons, sous le ciel pérégrin. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé de poème. Le poème était « Karisome no yado to kosokike ».« Karisome no yado to kosokike »« Tabi no sora » Nagamuru sue wa murasaki no kumo. Donc, karisome no yado to kosokike, tabi no sora. Nagamuru sue wa murasaki no kumo. Provisoire, certes, est le gîte, nous l'entendons. Sous le ciel pérégrin, nous contemplons le terme de nuées empourprées. Murasaki no kumo, le dernier vers. Étonnante confession d'un moine, Jien, qui fut quatre fois patriarche de l'école Tendai, que cette attente de la terre pure au terme de sa vie. Mais je vous ai déjà dit que le Shōrin-in, dont Jien comme Son-en furent abbés, était un haut lieu du courant amidiste du Tendai. Cela n'est donc pas si surprenant en définitive. Et s'il était nécessaire de le montrer, je peux vous citer cet autre poème de Jien, qui ressemble un peu au premier, c'est pour ça que j'ai fait une erreur. Sauf que Murasaki no Kumo était le dernier vers du poème précédent. Cette fois, il est au premier vers. Murasaki no kumo o matsumi wa kinu ni kyo saki kakaru fuji no irozo urishiki. En ce corps où j'attends les nuées empourprées, à mon habit ce jour, des glycines en fleurs s'attachent en couleur de liesse. Alors, je traduis Murasaki no kumo par nuées empourprées, un peu en hommage à Henri Corbin, dont vous connaissez tous le célèbre livre L'archange empourpré. Et cela va très bien dans ce contexte, puisque Murasaki no kumo a presque toujours un sens religieux précis dans la poésie japonaise. Comme il ne s'agit pas d'un poème scripturaire motivé par la lettre du Sutra du Lotus, ce second poème, Jien est autant plus libre d'exprimer son attente religieuse. Et l'on voit que les fleurs de glycines ondulantes lui rappellent la couleur des nuages qui apparaissent au soir de la vie, par-delà la montagne d'où Amida viendra avec son cortège de bodhisattvas au-devant de l'âme qui doit le rejoindre. C'est un thème iconographique bien connu du bouddhisme, de la peinture bouddhique japonaise. Ainsi, le sens du poème de Soen est clair et se situe bien dans une transition d'imprégnation amidiste de la pensée lotusienne, telle qu'on la voit apparaître plus de 3 siècles avant lui, si ce n'est dans le Sutra du Lotus même. L'espoir qu'il exprime à ce... Oui, je peux peut-être vous faire remarquer que le Sutra du Lotus, comme je l'ai peut-être dit très brièvement au début de ses cours, donc il y a presque 2 mois maintenant, le Sutra du Lotus est un sutra composite. N'est-ce pas ? Les derniers chapitres ont manifestement été rajoutés plus tard à la partie centrale qui va grosso modo jusqu'au chapitre 22. Et on peut considérer que les chapitres suivants sont tous des chapitres séparés à l'origine qui font l'éloge de certains courants bouddhiques. Et en particulier, ce chapitre 23 fait apparaître la dévotion en le Bouddha Amida. Mais bien sûr, dans la mesure où ça a été réuni dès l'origine du texte que nous possédons dans le Sutra du Lotus, on doit le considérer comme partie intégrante du Sutra du Lotus. Et ce n'est donc pas une contradiction dans le Sutra même. L'espoir qu'il exprime à propos de la citation scripturaire n'est pas de suivre la voie de Bodhisattva jusqu'à son terme, qui est l'obtention de l'éveil parfait de Bouddha, mais de réaliser le passage, la renaissance, au jour, en la terre pure du Bouddha Amida, qui a fait vœu d'y accueillir tous ceux qui s'en remettront à lui. Les mots « à venir » dans le poème, « kanu », n'est-ce pas, « kanuru hadu », « lumière du crépuscule », « yuhi kage », et surtout « ouest »,« nishi » et « aspiré shitau », font un contraste remarquable par leur orientation amidiste avec le début du poème, ce « je l'entends à présent »,« imazo kiku », dont l'adverbe de temps qui est « maintenant »,« ima », signale, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le temps de la révélation du Sutra du Lotus. Il est d'ordinaire cet adverbe « ima » opposé à « jadis »,« mukashi », opposant le passé des 3 véhicules au présent du Lotus. Vous l'avez vu plusieurs fois, et on voit très souvent le premier... L'une des deux moitiés de poème commence soit par Ima, l'autre commençant par Mukashi, ou l'inverse, Mukashi, Ima. Maintenant, autrefois. Maintenant, c'est toujours le temps du Sutra du Lotus, le présent lotusien, en quelque sorte. Mais nous voyons ici que l'opposition n'est pas entre le présent et le passé. Elle concerne le présent et l'avenir. Et l'avenir, pour Soen, c'est la renaissance en la terre pure. Il n'est pas seul, là encore. Depuis l'époque de Heian, nous voyons comment l'amidisme s'est greffé sur les conceptions temporelles traditionnelles du Tendai. Alors, je vais être obligé d'être un peu technique, mais c'est une comparaison qui est très fréquemment employée c'est une division plutôt du temps qui est très fréquemment employée dans le Tendai. Et par-delà le Tendai, elle s'est transmise à toute la pensée, disons même philosophique japonaise. Si bien que lorsqu'un un commentateur japonais, même anti-bouddhique du XVIIIe siècle par exemple, va critiquer les conceptions bouddhiques de l'histoire et du monde, il va se référer à cette idée, alors que lui-même n'en est pas partie prenante. Seulement, il réfute le bouddhisme, donc il ne peut pas accepter cette vision. Il la critique, mais pour lui, c'est une vision typique de la pensée bouddhique japonaise. C'est donc quelque chose qui dépasse de beaucoup la simple scolastique Tendai. Alors, cette conception traditionnelle du Tendai sur la prédication du Bouddha est résumée sous le terme de 5 heures, les 5 heures ou les 5 périodes, goji, n'est-ce pas, itsutsu no toki. Alors, celles-ci vont du lever du soleil à midi, ces cinq heures. C'est pour ça qu'il vaut mieux traduire par 5 heures que chaque période, puisque ce sont des divisions de la journée. Et entre ces deux heures, donc le lever du soleil, l'aube et le midi juste, n'est-ce pas, trois autres heures sont insérées qui correspondent aux étapes intermédiaires de l'ascension du soleil dans le ciel. La première heure, le lever du soleil, correspond à la prédication du sutra de l'ornement de splendeur, l'Avatamsaka Sutra, Kegonkyo, éblouissant et impossible à regarder en face, qui n'éclaire que les plus hauts sommets. C'est donc le ciel, le soleil qui se lève et qui éclaire trop. Les trois heures intermédiaires correspondent à l'adoucissement de l'enseignement du Bouddha, qui repart du plus facile au plus difficile. Donc ces trois heures correspondent à ce qu'on appelle agongyo, n'est-ce pas, les agamas, disons pour faire simple, le petit véhicule, le tripitaka du petit véhicule. Ensuite, les sutras développés, dont le seul qui est connu ici, qui soit mentionné à ce sujet, c'est l'enseignement de Vimalakirti, le Yuimagyo, qui est un sutra très connu au Japon. Ensuite, vous avez les sutras de l'excellence de Sapiens, les Hanyaharamitakyo, n'est-ce pas, c'est-à-dire la Prajnaparamita, les sutras portant sur le développement philosophique de la vacuité, et jusqu'à ce qu'enfin, la révolution du lotus puisse survenir, une fois les êtres préparés, ce qui correspond à la pleine lumière de midi, illuminant verticalement jusqu'aux vallées les plus obscures. Donc tous les niveaux sont illuminés par cette dernière heure non pas de la journée, justement, c'est là qu'est le problème, mais cette dernière heure de la comparaison des cinq heures. L'inconvénient de cette allégorie de la progression de la prédication du Bouddha, indéfiniment répétée dans le Tendai, c'est qu'elle néglige la suite de la course du soleil dans le ciel. Ce sentiment de manque est habilement compensé par les tenants de la terre pure, grâce à l'ajout d'une sixième heure, qui est celle du coucher du soleil. L'exaltation de l'ouest, la direction où se trouve la terre pure bienheureuse au lointain de notre univers. En réorientant la perspective temporelle, non plus du passé vers le présent, mais du présent vers l'avenir, Son Yen se place dans cette logique de la sixième heure, caractéristique du syncrétisme Tendai, terre pure. Ce poème est, pour autant que je puisse en juger pour l'instant, le seul de la centurie de Son Yen qui soit si ouvertement amidiste. Est-ce le hasard qui a conduit le poète à en faire le dernier des 20 qu'il a composé sous la rubrique « Printemps » qui ouvre son recueil? Il suffira de nous rappeler quel en était le premier pour nous dire qu'il convient de pousser un peu plus loin l'examen. Vous en souvenez peut-être, la centurie s'ouvre sur une scène évoquée par Manjushri et qui répète celle qui s'est déroulée dans un passé immensément lointain. Un rayon de lumière surgit d'entre les sourcils du Bouddha, illumine 18 000 mondes en direction de l'Orient. Prélude de la prédication du Sutra du Lotus. Le poème inaugural de Son Yen était, je le répète, « Les couleurs du printemps vont-elles emplir jusqu'au lointain du ciel grâce à l'éclat solaire qui s'y embrume ?» Je ne reviens pas sur les détails, bien sûr. Le mot traduit par « éclat solaire » dans ce poème, « éclat du soleil », « lumière du soleil » et « hikage », « hikage ». Je vous ai déjà peut-être parlé de ce mot « kage » qui veut dire à la fois la lumière et l'ombre en japonais. Mais « hikage » veut dire souvent, dans le japonais moderne, « à l'ombre du soleil », n'est-ce pas ? À l'ombre, c'est-à-dire la l'ombre. Mais évidemment, dans les poèmes bouddhiques anciens et en japonais ancien, ça veut dire aussi la lumière du soleil. Or ici, dans ce 20e poème, le mot central, celui qui occupe tout le troisième vers, est « yuhikage », justement, dont tout le monde voit la parenté avec « hikage ». Yuhi, littéralement, c'est Hikage tout à l'heure, plus Yu, Yu voulant dire le crépuscule. Yuhikage veut donc dire la lumière du soleil du soir. Il signifie donc lumière du soleil couchant. Juste après cela, nous avons la mention de l'ouest, Nishi. Ainsi donc, s'oppose le soleil levant du premier poème au soleil couchant du dernier. L'orientation vers l'est du premier, qui est implicite à cause de la citation même du sutra sur lequel il repose, n'est-ce pas, illuminant vers l'est, alors donc à l'orientation vers l'ouest, explicitée dans le quatrième vers du dernier poème. Cela ne peut rien devoir au hasard. Et si nous suivons le mouvement poétique de Son Yen, du premier au vingtième poème, nous retrouvons sous une forme résumée le parcours des six heures solaires que je vous ai esquissé tout à l'heure. Le rayon éblouissant et oriental du soleil levant, suivi des nombreuses allusions à la lande et à la plaine, nobe, nohara, qui rappellent les trois étapes intermédiaires réduites à la première et plus importante, celle du petit véhicule, ou à tout le moins des trois véhicules. La cinquième heure, celle du soleil, du lotus, et enfin la sixième, celle de la rencontre avec le Bouddha Amida et sa terre pure de l'Ouest. Ces poèmes printaniers, dont la plupart se laissent lire comme les innombrables poèmes classiques célébrant la nature, constituons donc, dans leur enchaînement, un véritable itinéraire religieux, décrivant la parabole, cette fois au sens géométrique, de la piété du poète, suivant à la lettre le sutra du lotus, pour finalement aller au-delà dans un quiétisme caractéristique de la religiosité de son milieu et de son époque. Je vous remercie.